jump to heaven and then coming back alive.
Let me tell you all about it.
Give me a little time to choose.
What a baby singing in a little delight.
Blue Panama kiss.
Rain on the dead of night.
Here comes the Black Queen poking in the fire. Fight for the Black Queen marching single file.
I'm gonna
À la rescousse, j'arrive. On bavardait. Hop, attention. On est pas en direct, mais les conditions du direct sont parfaitement respectées. Je vous le dis. Voilà, parce que, on va être exact, c'était un CD qui tournait. Le bouton qui permet d'enchaîner n'était pas activé. Hein. On était en single et moi je voulais être en full ou un truc comme ça d'ailleurs. Hop, là c'est fait. On aura brouillé un petit peu l'antenne, mais c'est plus humain, moi je trouve. Comme ça, on sait que c'est pas des robots qui travaillent. Parce que je pourrais très bien dire, et vous l'entendriez pas d'ailleurs, couper tout ce que je suis en train de dire, parce que ce que je dis n'est pas très intéressant. Bref, j'arrête là, comme ça c'est mieux. Bienvenue dans Passé Présent, c'est la deuxième heure et c'est consacré joyeusement, dirait-on, à Freddie Mercury et son œuvre. Et le livre qu'on peut même d'ailleurs parler un tout petit peu précisément pour savoir où on peut le trouver, c'est chez Fayard. Donc on trouve ça chez tous les bons libraires, je pense. D'ailleurs c'est même sûr, je l'ai vu un peu partout.
Voilà, il est disponible absolument partout.
Voilà. Ouais. Vous pouvez l'acheter sur internet aussi si vous voulez. Voilà, donc un livre avec d'ailleurs des photos que je n'avais jamais vues. J'en ai vu pourtant pas mal.
Bah oui, parmi les personnes que j'ai pu rencontrer qui étaient des proches de Mercury pour pouvoir pendant l'écriture du livre, donc j'ai pu rencontrer des personnes comme l'une de ses amies qui était Wendy Allison, qui m'a beaucoup aidé justement dans la compréhension aussi du personnage qu'elle avait, de l'homme qu'elle avait connu, et qui nous a très gentiment mis à disposition des photos personnelles de Mercury datant des années 70, dont une très très belle avec Mary Austin, dont on aura l'occasion de parler, qui était probablement le grand amour de Freddie Mercury. C'était une femme donc, et qui est ensuite devenue l'héritière de l'essentiel de sa fortune et de son palais londonien Garden Lodge. Et voilà.
Okay. Voilà, oui, voilà. Oui, voilà.
Donc voilà. Donc oui, donc les photos, il y a eu différentes sources et voilà, il y a eu aussi David Evans, bien sûr, qui a été quelqu'un de remarquable, qui a une très belle contribution dans ce livre.
Enfin, qui a lui-même écrit.
David Evans a écrit un livre, oui, il a écrit un livre avec David Mintz, oui. Qui a été le premier amour masculin de Mercury, en tout cas d'après ce qu'on sait, qui d'ailleurs va, dans la relation d'ailleurs, va provoquer la rupture entre Freddie Mercury et Mary Austin, mais bon. Là, je vais un peu vite, mais et David Evans était vraiment un ami intime de Freddie Mercury. Il l'a connu avant qu'il ne naisse aux yeux du monde, à proprement dit. Et c'est quelqu'un qui va être à ses côtés tout au long de sa vie, qui va être vraiment un ami de l'ombre, un être de très grande qualité, quelqu'un d'un très grand raffinement intellectuel. D'une très grande discrétion, mais qui s'attachera par la suite vraiment à, on va dire, un petit peu à contrer un peu les versions officielles qui ont agacé à peu près tous ceux de l'entourage de Freddie Mercury, tous ceux qui ont vécu à ses côtés, qui ont été ses amis, qui ont constitué en quelque sorte un peu sa famille plus tard, une famille de choix, et c'est la raison pour laquelle David Evans a écrit avec David Mintz un livre juste après la mort de Freddie Mercury en 92. Justement pour parler du vrai Freddie Mercury qu'eux ont connu et pas de celui qu'on a bien voulu présenter de manière un peu trafiquée dans les médias et surtout dans la presse britannique qui d'ailleurs a joué un rôle assez terrible dans la vie de Freddie Mercury. Donc David Evans a été quelqu'un de un interlocuteur d'exception vraiment. Là je tiens d'ailleurs à le remercier, lui ainsi que Nigel Quiney, qui ont été vraiment deux personnes vraiment remarquables, qui ont toujours été ouvertes à toutes les questions que j'ai pu avoir à leur poser et qui ont très bien compris aussi le sens de ce travail et cet ouvrage qui est je crois quand même à 10 milieux de la plupart des ouvrages des ouvrages People qui sont assez détestables.
Oui, oui.
Donc là vraiment on s'adresse je pense qu'il s'agit vraiment de raconter le livre raconte une quête du bonheur et je crois que la quête du bonheur d'un individu, et je crois que tous les lecteurs sont susceptibles ou capables de s'identifier.
Exactement,
justement à cette quête,
oui.
Qui est une quête bien sûr hors norme, mais il y a tous les aspects de l'ombre du personnage, de l'ombre qui sont déterminants justement et qui font partie justement, essentiellement partie de cette quête du bonheur. Il y a Freddie Mercury d'un côté, qui est un peu le personnage que lui donne à la lumière, et il y a l'autre Freddie Mercury, le Farouk Bulsara, qui est la personne la plus intime et la plus privée, qui est un peu son secret, son mystère. Mais là, durant ces années, le début des années 70, là où nous en sommes arrivés, il s'agit vraiment de la naissance du mythe. Et durant cette période, Freddie Mercury se consacre pleinement à son œuvre, à son ambition qui est démesurée, et au personnage et à la musique qu'il est en train de créer avec Queen. Et là, ils ont vraiment décidé de dépasser, on va dire, musicalement parlant, ce qui continue de se faire justement avec Led Zeppelin, par exemple, ou avec les Stones, qui sont encore dans un son et un registre qui est assez différent de Queen. Queen va proposer une musique qui est extrêmement élaborée, qui est pas forcément accessible d'ailleurs au départ. Mm-hmm. On a pu entendre là un titre.
Je peux le confirmer d'ailleurs.
Oui.
L'anecdote, ouais, c'est que j'avais découvert Queen avec pas mal de titres des années 80 et donc éventuellement les derniers titres des années 90, l'album Innuendo, ou les titres solo de Freddie Mercury, notamment le Living on My Own, le remix de 93, je crois qu'il a permis à beaucoup de monde d'ailleurs de le découvrir. Et lorsque je suis passé à l'album Queen 2, dont on a écouté l'extrait donc en début de deuxième heure, c'était The March of the Black Queen, j'ai vraiment pas aimé, au sens où, enfin, c'est pas juste de dire que j'ai pas aimé, mais j'étais un peu perdu, quoi. Les morceaux étaient longs, enchaînés, avec des passages complètement différents, et finalement c'est tout à fait l'essence de Queen, puisque ça, Bohemian Rhapsody, la chanson la plus emblématique, synthétise tout ça. Et il y avait un peu tout ça dans cet album, quoi. C'est-à-dire que Bohemian Rhapsody, c'est une chanson, et l'album Queen 2, c'est un peu l'album de la chanson. Enfin, je sais pas comment le dire. Et en plus, d'ailleurs, comme par hasard, la pochette reprend le clip plus tard. Mais l'album Queen 2 est un album vraiment impressionnant, quoi. Tellement impressionnant qu'il m'a intimidé, en fait, je crois.
Oui, il était sûrement même très intimidant pour la plupart des auditeurs de l'époque. L'album est rentré dans les charts. Il a eu, c'était vraiment le premier succès de Queen. Et en fait, un succès artistique, on va dire, plus que populaire. C'est un grand succès artistique parce qu'ils sont arrivés à s'imposer qualitativement dans le milieu, dans l'industrie musicale, mais aussi parmi leurs pairs. Hein. À cette époque, on a David Bowie, on a Elton John qui est dans un registre plus pop, mais qui est aussi un très grand compositeur, qui maîtrise parfaitement son style et qui était vraiment un très grand musicien.
Tout à fait.
Et Mercury, lui, est en train de créer avec Queen un son qui est très différent de tout ce qu'on a pu entendre jusqu'à présent. Bien sûr, il y a des inspirations, mais tous ont eu des inspirations. Et Queen est en train de se mettre à l'œuvre pour fabriquer un son qui est assez inconnu. Alors à partir de là, Mercury va aussi travailler puisque il est parfaitement conscient en fait de la place qu'ils peuvent se permettre d'occuper. Il va essayer d'ouvrir Queen à un registre, on va dire, un peu plus, un son un peu plus, peut-être parfois un peu moins spectaculaire que ce qu'il a bien voulu proposer en tant que compositeur avec March of the Black Queen entre autres, mais qui va être un plus dans le style du cabaret. Chose qu'il va faire avec Killer Queen, qui va être le premier grand succès international de Queen, qui va leur apporter non seulement donc leur premier numéro 1 dans les charts britanniques, le top des charts.
Je crois que c'était numéro 2 même.
C'est numéro 2.
Mais il y a une embrouille, non? Ils auraient dû être numéro 1, je crois. Hein.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Ils vont pénétrer réellement le marché américain, le Japon, où ils vont tout de suite, mais ça dès Queen 2, être considéré vraiment comme des espèces de demi-dieux.
Incroyable, ouais, là-bas.
Et ils vont avoir l'intelligence de s'imposer sur scène. C'est-à-dire que Queen est convaincu d'une chose, c'est que vendre des disques, c'est une chose, mais il faut trouver son public. Et ils vont tout de suite commencer à concevoir des spectacles qui, déjà pour leur époque, sont absolument démesurés, qui coûtent très cher. Ces spectacles, il faut bien se dire que jusqu'au début des années 80, ces spectacles, on perdait essentiellement de l'argent dans la production de ces spectacles, et que en fait ces spectacles, ça va faire la promotion des disques. Et Queen va aller vraiment chercher son public là où il se trouve, et il va l'attirer en nombre. C'est-à-dire qu'on va commencer par des théâtres de 200 personnes, et on va très vite en arriver à des arènes et à des stades au cours des années 70, et ils vont être ceux qui vont vraiment définir le concept du rock stadium.
Ouais.
Et ça, c'est vraiment l'un des aspects les plus remarquables de Mercury, c'est qu'il va imposer un son et un style, non seulement dans la musique enregistrée en studio avec les autres membres, puisque chacun est investi activement dans la création musicale. Mmh. Ils sont tous auteurs et compositeurs. Mmh. C'est une particularité de Queen, qui était aussi une particularité des Beatles. Mmh. Ce sont tous de très grands interprètes, mais de très grands compositeurs. Mmh. Ils auront tous des titres. Ils auront tous, on va dire, ce qu'on
chacun
appelle des hits.
Chacun a fait son tube et même plusieurs.
Hein. Et même plusieurs. Ouais. Alors je crois que justement avec Killer Queen, Mercury va vraiment se placer au centre, s'introniser en quelque sorte. C'est un titre absolument délirant, d'une très grande ironie, d'une certaine complexité musicale, et en décalage avec tout ce qui se fait jusque là. Et ce qu'ils ont fait avant était décalé aussi, très progressif, mais là ils vont toucher un plus grand public encore. Et c'est ce que Queen va incessamment faire par la suite. C'est-à-dire qu'ils vont réussir à imposer des titres que personne d'autre n'aurait été capable de proposer et à en faire des grands tubes. Ils sont à la fois de très grands compositeurs sur des titres complexes, mais aussi, et ça bien sûr ils ont été très enviés pour ça, ils vont être capables de composer des titres assez complexes et intimistes mais, et compliqués, mais ils vont être aussi capables de composer des hymnes à proprement dit qui seront tout de suite identifiables et que, on va dire, à peu près toutes les nations seront capables
de
s'approprier.
C'est tout à fait unique, ça, c'est tout à fait unique, je pense.
Il n'y a pas de groupe qui réussit à faire ça vraiment comme Queen. We Are the Champions, We Will Rock You sont des exemples. Mmh. Et bien plus tard, lorsque Mercury composera l'hymne officiel des Jeux Olympiques, il aura été choisi aussi pour cette capacité-là à composer des hymnes, justement à composer des airs qui sont susceptibles de rassembler les gens et rassembler les foules et émotionnellement. Et là, avec Killer Queen, il va vraiment, on va dire, il va recevoir l'un des prix les plus prisés à l'époque, qui est le Ivor Novello Award, pour la meilleure composition de l'industrie britannique. Pour l'année
74,
mais il va la recevoir, je crois, en 75.
Oui, c'est très possible. Oui. Est-ce que, l'album Shared Attack est sorti fin 74, puisque Queen 2 est sorti début 74.
Exactement. Donc, et ils enchaînent, justement, et c'est ça qu'il faut dire, c'est qu'ils enchaînent un rythme de travail qui est incessant. C'est absolument incroyable. Les frères Sheffield, avec qui ils sont liés par contrat, essayent vraiment de tirer profit d'eux, et ils sont rentrés dans un embranglio contractuel avec les frères Sheffield qui leur a été très utile, mais qui aujourd'hui, de par leur succès, est en fait devenu un poids. Ils sont, on va dire, usurpés dans tous les sens du terme par ces producteurs. Et ils vont essayer justement de s'émanciper progressivement des frères Sheffield. Alors ils vont partir en tournée, ils vont commencer à faire leur première tournée internationale, les États-Unis, ils vont égrener les États américains de bout en bout, le Canada, le Japon, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et toute l'Europe, les premières tournées. Et on va commencer à entendre parler de Queen en France avec Killer Queen, justement, qui va être un très grand tube.
Écoutons donc cette chanson aussi emblématique, je pense, du Queen, en tout cas des années 70.
She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building, a remedy for Khrushchev and Kennedy. At any time, an invitation you can't take. She never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China went down to Geisha Minor. Then again, incidentally, you that way of crying. Perfume came naturally from Paris. Naturally. Because she couldn't care less. Fastidious and precise.
She's a killer queen. Gunpowder gelatine. Dynamite with a laser beam.
Guaranteed to blow your mind.
insatiable an appetite. It's so easy, but I can't do it. So risky, but I gotta chance it. So funny, there's nothing to laugh about. My money, that's all you wanna talk about.
In the Lap of the Gods, Revisited, c'était le titre qui clôturait l'album Sheer Heart Attack, un titre de Queen qu'on peut déjà considérer comme une hymne, ou un hymne plutôt.
Un hymne.
Bien avant, ou du moins 3 ans avant, We Will Rock You et We Are the Champions. n'est-ce pas, Selim?
Oui, c'était le titre avant d'avoir composé les grands titres comme We Will Rock You ou We Are the Champions, ou avant l'usage de God Save the Queen qui va apparaître dans le prochain album qui va suivre Shout Attack. Queen avait l'habitude de clôturer ses spectacles avec le titre qu'on vient d'entendre, qui est une composition là encore de Mercury, et qui est un titre à la fois et baroque et très opulent et encore une fois assez complexe, hein, parce qu'il travaille sur différents registres. Et Mercury se plaît beaucoup à travailler, bon là c'est peut-être pour ceux qui ont une notion de musique, mais Mercury se plaira beaucoup à travailler en musique chromatique, diatonique, dans ses différentes compositions. Donc créer certains contrastes, il va vraiment développer ça, et il va aller encore beaucoup plus loin en fait avec le prochain album qui va être Night at the Opera. Et là, si on voit que chaque membre du groupe a été complètement investi dans la création et la production musicale et dans les spectacles et les productions de Queen sur scène, qui sont vraiment menés visuellement, scéniquement par Mercury, le prochain album, A Night at the Opera, est vraiment, on peut dire, un peu le bébé de Mercury. C'est un petit peu son concept à la base. Et surtout, cet album est important à plus d'un titre. D'abord, c'est l'intronisation de Queen dans l'histoire de la musique, avec à travers cet album, en tant qu'objet à part entière, à travers tous ses titres et l'organisation des titres, mais aussi avec cette espèce de composition complètement fantasque et monstrueuse en quelque sorte, qui est Bohemian Rhapsody. Et Queen a maintenant une conviction, c'est qu'ils doivent se sortir de, comme je disais tout à l'heure, de leur relation avec leur manager et producteur. C'est EMI qui s'occupe d'eux, qui est la maison de production, qui est aussi la maison de production entre autres des Pink Floyd, entre autres
David Bowie un peu plus tard.
Oui, des Beatles aussi, si je dis pas de bêtises.
Oui, tout à fait, oui.
Et la plus grande maison de disques du moment, vraiment. Et je crois aujourd'hui encore, d'ailleurs, si je
me trompe. Oui, bien que j'ai entendu dire qu'ils étaient en restructuration, la crise du disque bat son plein, je pense.
Oui, ils ont tous un peu ça. Ouais. Oui. Et Queen va vraiment vouloir se sortir justement de l'emprise des frères Sheffield. Il ne faut pas oublier qu'ils ont été humiliés par ses producteurs, et ils étaient obligés pour les premiers albums de composer lorsque d'autres personnes qui, aux yeux des frères Sheffield, étaient plus importants, ne travaillaient pas. Donc Queen a été obligé de travailler de nuit lorsque les studios n'étaient pas occupés par Bowie ou par McCartney et ses amis. Et ça, bien sûr, c'est une chose que Queen ne va pas oublier. Ils vont vouloir s'affirmer musicalement, montrer qu'ils sont, même si c'est très présomptueux, mais vouloir montrer qu'ils sont les meilleurs.
Ouais.
Et ils vont vouloir l'affirmer concrètement, donc dans leur production musicale, dans leurs concerts. Et ça, ils vont y arriver d'abord avec Killer Queen. Mais ils ne peuvent pas se sortir de cet embrouille musical sans quelques petits problèmes, puisque ça aura des conséquences financières. Et en cassant le contrat avec les frères Sheffield, Queen fait appel à un avocat spécialiste dans l'industrie du disque, qui va être le grand manager de Queen, qui est Jim Beach, qui va intervenir dès cette époque. C'est un avocat qui en plus est aussi un musicien qui pratique le jazz et qui donc a une certaine sensibilité justement par rapport aux attentes des artistes. Donc il va très bien arriver à comprendre en fait quelles sont les attentes de Queen, et il va essayer de les tirer du mieux qu'il peut avec quelques autres collaborateurs du cabinet dans lequel il travaille encore. Il va essayer de les tirer de cet embroglio là, mais ça aura des conséquences, et Queen va être en fait, malgré tous les disques qu'ils arrivent à vendre, les grands succès qui sont les leurs à ce moment-là, leurs concerts qui affichent complet en permanence. Y a des scènes d'hystérie collective lors des concerts donnés au Japon, où on est même obligé d'interrompre le concert parce que les gens veulent monter sur scène pour aller toucher leurs idoles. La police intervient. Enfin, c'est
ça devient Queen Mania comme la Beatlemania a pu exister un peu partout aussi, quoi.
Oui, et c'est en train de devenir un vrai phénomène. Ouais. Et là, malheureusement, en fait, avec ces problèmes qu'ils connaissent avec les frères Sheffield, eh bien Queen va être un groupe qui va être obligé de s'endetter pour pouvoir se libérer de leur emprise. Et au moment où ils composent l'album A Night at the Opera, qui va être pour l'époque l'album le plus cher, qui va être beaucoup plus cher encore que Sgt. Pepper, qui avait, on va dire,
mis la barre très haute déjà, et ouais. Là on est 8 ans plus tard.
Et là Queen va vraiment produire l'album le plus cher de l'époque, travaillant dans plusieurs studios simultanément, enfin différemment, dans différents studios, et va travailler longtemps sur cet album, et très intensivement surtout. Et là ils vont faire appel à un producteur qui va être très important pour eux, qui est déjà intervenu précédemment sur Shout Attack, qui est Roy Thomas Baker, qui va être vraiment quelqu'un de très important pour Queen. de la même manière que Brian Eno a été à sa
avec Bowie, U2.
C'était un peu le cinquième membre de U2, Brian Eno, et qui a donné vraiment une dimension aussi à ce groupe musicalement. Et Roy Thomas Baker va vraiment comprendre ce que cherchent les membres de Queen. Et avec A Night at the Opera, en fait, ils vont miser le tout pour le tout. C'est soit un nouvel élan, une renaissance, soit la fin, avec les dettes qu'ils ont. Et là, ils vont commettre, enfin, Freddie Mercury va commettre un crime de lèse-majesté, on va dire. C'est-à-dire qu'il va proposer aux membres du groupe ce fameux titre qui est Bohemian Rhapsody. C'est un titre qui dure environ 6 minutes.
Et qui aura la particularité d'être un single, parce qu'ils avaient déjà fait des titres longs, mais là, le crime, c'est de vouloir faire un single. Là, ça passe ou ça casse.
Exactement, la plupart des titres à l'époque, et même encore aujourd'hui, font, on va dire, 3 minutes 30, 4 minutes, 4 minutes 30 grand maximum. Là, il en a pas 6 minutes, et encore, il l'a coupé de 2 minutes.
On dit qu'il existe une version de près de 8 minutes.
C'est ça, oui.
Où est-elle, cette version?
Elle doit traîner dans les archives de EMI et du groupe, probablement. C'est la version originale de Bohemian Rhapsody, mais que Mercury a ramené à resynthétiser un peu plus pour faire plaisir aux producteurs, qui étaient quand même désespérés devant l'animal. Et surtout, chacun s'est dit, mais c'est un suicide commercial qu'il veut nous imposer, on va rentrer dans le mur avec un titre comme celui-là. Et chaque membre du groupe en plus le pense, sauf Mercury. Et ce titre, en fait, Brian May aura le commentaire suivant. Mercury va arriver un jour en studio en ayant un titre qu'il porte en lui depuis très longtemps, en ayant tout d'achevé dans sa tête. Sauf la seule chose, c'est qu'il ne veut pas expliquer encore au groupe ce que va donner le titre au final. Alors ils vont tous travailler et suivre exactement ce que Mercury va leur demander de faire, en ayant confiance en lui. Et il ne voit pas vraiment le sens du titre qu'il veut proposer. Progressivement, lorsque le titre sera fini et mixé, alors là, Brian May dira que ça lui semble absolument incroyable et improbable. Enfin, il sera impressionné de voir ce que Mercury portait de déjà fini dans sa tête en tant que concept musical. Et ce titre que Queen va réussir à imposer au producteur comme premier single pour A Night at the Opera va rentrer à la première place des charts britanniques.
Pendant très très longtemps. Record à l'époque.
Record absolu, il est resté je ne sais pas combien.
11 semaines.
11 semaines, c'est ça. Je crois que c'est 13 semaines. Il est resté 13 semaines à la première place.
Alors peut-être. Ah oui, ceci dit, voilà.
D'ailleurs, ce titre a été. Il y a eu différents sondages qui ont été effectués dernièrement au Royaume-Uni par la BBC, et ce titre a été élu.
Chanson du millénaire, je crois.
Oui, chanson du.
Millennium, un truc comme ça, voilà. En 99, je crois même, ils avaient ressorti pour la énième fois le titre en single.
Oui.
Et il
a refait numéro 1. C'était en 91 qu'il
avait... Couplé à Teaser the Days of Our Lives, qu'il avait refait numéro 1, et c'était déjà encore un record, puisque c'est la première fois qu'un titre était deuxième fois numéro 1, en fait, qui ressortait et qui était de nouveau numéro 1, quoi.
Tout à fait.
Avec un contexte plus particulier, bien sûr.
C'est devenu vraiment un symbole musical britannique, cette chanson. Mais maintenant, bien sûr, tout le monde se l'est approprié et chacun y voit ce qu'il veut bien y voir. Hein. C'est une chanson qui peut être interprétée de différentes manières. Oui. Mercury n'a jamais voulu donner d'interprétation à cette chanson, mais il faut bien se dire qu'au moment où il l'écrit, en fait, son assistant, on en avait discuté avec son assistant justement, Peter Freestone, qui lui voulait bien y voir, et je pense à juste titre, en fait le symbole de ce que Mercury est en train de vivre dans sa propre vie, c'est-à-dire qu'il est en train de se libérer de beaucoup de choses professionnellement, comme on a pu le voir, mais aussi intimement. Il vit depuis des années une grande histoire d'amour avec une femme qui est Mary Austin, dont il est profondément amoureux, mais progressivement, menant la vie qu'il mène, il sait aussi que le concept de vie familiale, avec une position qui pourrait être peut-être pas très pour la sienne, n'est peut-être pas le modèle de vie auquel il aspire profondément, et surtout sa carrière pourrait l'en empêcher. Et la priorité à cette époque, c'est de poursuivre cette ambition artistique et de réaliser cette carrière musicale qu'il souhaite réaliser proprement. Et il va commencer à avoir, sans le dire, quelques aventures avec des hommes qu'il va rencontrer à ce moment-là. Et il va ressentir un profond déchirement entre l'amour profond qu'il porte pour cette femme, qui s'exprime d'ailleurs dans cette musique, puisqu'il y a le passage qui est une espèce de passage musical en enfer, où la personne qui s'apprête à mourir réclame sa rédemption et sa liberté, et le moment où elle l'obtient effectivement en revenant Cette chanson est assez complexe. Elle parle à la fois d'un condamné à mort qui s'apprête à faire ses adieux, et on passe dans un enfer musical pour un enfer ou un purgatoire musical pour renaître dans une autre dimension. Donc en fait, cette chanson est en fait trois ou quatre chansons en réalité, avec trois ou quatre univers musicaux très très différents. Donc il y a vraiment une espèce de mélange entre ce que Mercury vit lui-même en tant que personne dans sa chair, on peut dire, et ce qu'il souhaite réaliser musicalement. Il arrive à faire la symbiose de tout ça, et ça c'est vraiment très fort. C'est vraiment un propre à Mercury. Il va le réitérer par la suite. Et l'homme et le groupe qui vont sortir de Night of the Opera, ce sera un homme et un groupe qui seront vraiment métamorphosés, qui vont être vraiment transcendés. La Queen va vraiment écrire une page de l'histoire de la musique et va s'introniser, on va dire vraiment, on pourrait dire un peu trivialement, comme étant un peu les monarques.
Parce que les critiques qui étaient déjà peut-être pas toujours très sympas déjà assez rapidement, il me semble, mettront, enfin encore maintenant, dans certains classements, toujours cet album plutôt bien placé parmi d'autres classiques, soit de Bowie, des Beatles, des Stones ou les Who. Alors que bon, il y a plein d'autres albums de Queen qui sont intéressants, mais c'est vrai que la relation de Queen avec la critique, ils n'étaient pas toujours d'accord, je crois.
Très tumultueuse. La critique a souvent frappé sur la tête de Queen, surtout en fait au Royaume-Uni, et voulait y voir en fait un groupe un peu pompeux, faisant en fait beaucoup de bruit, ayant une vision trop baroque. Mais essayant aussi un peu d'amenuiser un peu l'image que Queen voulait donner d'eux-mêmes. Mais en fait, ce sera une relation un peu sadomasochiste entre la critique, parce que la critique est aussi en même temps fascinée par Queen, fascinée par leur musique et fascinée par Freddie Mercury. Et donc en fait, c'est simple, le groupe ne laissera strictement personne indifférent. Soit il sera vénéré, soit il sera détesté, mais même dans la détestation qu'on peut avoir du groupe, il y a une espèce de fascination absolue. Et le groupe s'impose, s'impose à travers une musique qui est une musique de très 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 haute volée. Je crois que il faut vraiment souligner ça, parce qu'on parle souvent de Mercury comme un interprète et comme une voix exceptionnelle, mais c'est un compositeur exceptionnel. Et Bohemian Rhapsody le prouve de façon absolue, mais aussi d'autres titres.
Et notamment le Prophet Songs.
Prophet Songs, écrit par Brian May, celle-là.
Voilà. Chanson extrait de Night at the Opera, donc en 75. Et bah, ce titre il est encore plus long que finalement le Bohemian Rhapsody. Ça fait dans les 8 minutes, oui, même un peu plus. Et c'est plus impressionnant que Bohemian Rhapsody, mais c'est quand même assez osé, quoi.
C'est très osé.
Cette idée de, on va l'entendre, les voix, enfin l'instrumentation. On va l'écouter, je pense, tout simplement.
Oui, c'est ce qu'il y a de mieux à faire.
Peut-être qu'on va l'enchaîner avec le Love of My Life derrière, je pense.
Oui, et peut-être.
Et on réécoutera aussi la fameuse version live légendaire de toute manière. Mais écoutons pour l'instant Prophet Songs dans Passé Présent. Bonne soirée. The old man's gaze holds on the young and dry.
people, can you hear me?
Song, une chanson écrite par Brian May, parce que lui aussi pouvait écrire des choses assez impressionnantes, mais Freddie Mercury les sublimait évidemment de manière tout aussi impressionnante vocalement, bien que les autres membres de Queen, en tout cas Brian May, Roger Taylor, étaient de somptueux choristes.
Oui.
On peut le dire.
Et oui, Prophet Song est une. Brian May est un très très grand compositeur et de très très grand talent, et surtout un très grand harmoniste. Il arrive très bien à orchestrer les titres, justement. Et là, il y a dans cet album un titre assez magnifique, c'est un titre personnel de Freddie Mercury qui s'appelle Love of My Life, et qui est un titre qui est dédié à cette femme, Mary Austin, qui était la. Qu'on peut considérer comme étant la femme de sa vie, ou comme il le chante dans cette chanson, l'amour de ma vie. Elle aura été celle qui aura permis à Freddie Mercury de se dégager de toute une série de problèmes matériels avant qu'il ne soit connu. C'était elle qui avait pris en charge un peu le foyer qui était le leur, qui avait pris en charge, qui travaillait, qui avait des revenus réguliers et qui essayait de préserver pour lui un univers dans lequel il puisse être plus protégé. Et donc elle était vraiment, à proprement dit, comme me l'ont attesté les personnes que j'ai pu rencontrer, ils formaient véritablement un couple à part entière, un couple marié sans l'être vraiment. Et lorsque Mercury commence à connaître la carrière foudroyante qui est la sienne en plein milieu des années 70, il sait de quoi il est redevable à cette femme et il écrit ce titre. Mais en même temps, il y a un aspect douloureux, bien sûr, c'est que leur relation va s'estomper. Il y aura bientôt une rupture, puisque Mercury avouera sa bisexualité ou son homosexualité à cette femme, qui est l'amour de sa vie, et qui est probablement celle, on peut le penser, qui lui a fait une promesse, qui est celle de rester à jamais à ses côtés. Et cette promesse, lui, l'a tenue aussi, c'est-à-dire qu'il s'est toujours senti une dette envers cette femme, jusqu'à sa mort. Et une dette et une reconnaissance pour tout ce qu'elle avait bien voulu lui donner, lui accorder. Et cela, ce sera vrai jusqu'à sa mort, même bien au-delà, puisque Mary Austin vit toujours dans la demeure que fut la sienne,
Garden Lodge,
où elle a d'ailleurs pendant des années laissé chaque chose, chaque bibelot, chaque meuble, chaque tableau dans la place que Mercury avait bien voulu leur attribuer dans sa demeure. Donc c'est un peu un personnage à la Garcia Lorca que Mary Austin, et une femme qui est aussi une femme qui savait deviner en lui certaines choses que d'autres ne connaissaient pas ou qu'il n'avait même pas besoin d'énoncer ou de dire. Cette femme est issue d'une famille dont les parents étaient sourds et malentendants et où on ne communiquait pas, et donc elle avait dû très tôt s'habituer justement à ressentir chez l'autre ce qui existait, ce qui pouvait être douloureux ou même ne pas l'être d'ailleurs, mais ce qui était contenu. Et c'est exactement ce qu'elle a fait avec Freddie Mercury. Mais ensuite, bien sûr, pour conserver cet homme à ses côtés, elle a dû effectuer un sacrifice qui a été un sacrifice très douloureux. Et il y a justement dans mon livre tout un passage justement où j'essaie d'aborder de façon plus psychologique et plus intime justement le tenant de leur relation. Il y a tout un chapitre qui est consacré à Mary Austin, donc j'en dirai pas plus, mais cette chanson est vraiment une dédicace à leur amour.
Love of My Life, donc, la fin de ce titre dans sa version très, non dépourvue de harpe, en tout cas, signé Brian May, et qu'on est en train d'entendre avec son Good Company. On est en 75, alors pour te dire, Céline, on a 50 minutes de passer dans la deuxième heure, il nous reste, je vais avoir une petite toux qui va m'arriver, j'ai la voix un peu irritée, moins de 10 minutes. Alors on va parler un petit peu et on va finir sur un titre pour la clôturer la deuxième heure, et plus exactement l'émission du 22 novembre. Nous sommes le 22 novembre et la semaine prochaine on aura droit à la suite, ne vous inquiétez pas, soyez patients.
Oui, je pense que...
Excuse-moi.
Oui, je t'en prie. Oui, donc là, à partir de là, ça va être... Queen va rentrer dans une autre phase d'ascension permanente, et une phase d'ascension aussi qui va être de conquête, vraiment de... Ouais, on peut le dire, ça peut paraître un peu mégalomane, mais c'est vraiment être leur cas de conquête du monde. Et là, beaucoup de choses vont changer pour Mercury, c'est-à-dire que vraiment investi, ça fait maintenant bientôt 6 ans que Queen... et dans un travail incessant et permanent. Et ils commencent à profiter justement du fruit de leur labeur. Mais les choses commencent à devenir un peu plus compliquées au sein du groupe, des conflits commencent à apparaître, et des tensions nerveuses aussi. Et le groupe commence à donner quelques signes de fatigue, et c'est une vie permanente en tournée, en studio, et à se battre en permanence pour en arriver là où ils en sont arrivés. Donc maintenant ils vont passer à un deuxième cap qui va intervenir, un deuxième cap qui va être celui de la suite logique de A Night at the Opera, qui va être Day at the Races, et avec bien sûr un autre titre emblématique qui va être Somebody to Love. Alors je ne sais pas si tu voulais faire entendre à tes auditeurs le Bohemian Rhapsody qui a déjà été entendu à moult reprises, mais peut-être peut-être une version live plus tard.
Oui, voilà. Bah oui, pourquoi pas.
Puisque c'est un titre absolument magnifique qu'il a interprété sur scène. En tout cas, avec A Day at the Races, ils vont aller un peu plus loin dans le concept de A Night at the Opera. On va dire, c'est un petit peu on peut pas dire que ce soit un positif ou un négatif, c'est le prolongement de A Night at the Opera. Et là, ils vont travailler à souligner un peu plus un aspect cabaretiste qui va se lier à un rock opéra, mais l'aspect cabaret va être un peu plus mis en avant. Et là, il y a quand même quelques pièces de musique qui sont assez géniales.
Ouais, ouais. Notamment le Somebody to Love.
Somebody to Love, mais peut-être The Millionaire Waltz, qui vraiment résume extrêmement bien le travail de Queen sur cet album, où on voit différents styles, et comme on l'a vu précédemment avec A Night at the Opera, différents styles qui se confrontent et qui se lient pour créer une espèce d'alchimie musicale assez extraordinaire quand même.
Alors je te propose d'écouter pour l'instant le Somebody to Love en version live.
Oui.
Si ça te va.
Ah, parfaitement.
Pour illustrer, et j'espère qu'on pourra écouter le Millionaire Waltz. Le CD A Day at the Races m'a échappé. On le retrouvera.
Somebody to Love, c'est magnifique, vraiment.
Là, c'est un enregistrement de 1982, enregistré à Milton Keynes. Donc c'est le Queen on Fire Live at the Bowl, c'est intitulé du CD et du DVD. Disponible, et la version live est assez
impressionnante. Et là, on peut avoir une première impression de Mercury sur scène, quelque chose d'incroyable.
Appréciez cela. Somebody.
I've spent all my years in
Somebody to Love en 1982 live at Milton Keynes, ce qui illustre parfaitement comment Freddie Mercury pouvait être impressionnant sur scène, associé évidemment aux musiciens de Queen. On doit déjà se dire au revoir Selim, c'est déjà la fin de la première partie donc consacrée à Freddie Mercury et à Queen. Je pense qu'on a pas mal avancé hein.
Oui.
Voilà, donc il nous reste moins d'une minute pour nous dire au revoir, donc on va peut-être finir avec le morceau, la fin du morceau. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure, 20h-22h sur l'antenne de CFM. Et si vous voulez réécouter cette émission, vous pouvez l'écouter le jeudi prochain, rediffusion de la première partie de cet épisode consacré à Freddie Mercury, donc de 22h à minuit cette fois-ci. Donc jeudi 22h à minuit, c'est la rediff, et la nouvelle émission, la suite, ce sera samedi prochain, 20h-22h. Passez une bonne soirée à l'écoute de CFM. Soyez prudents sur la route, soyez patients, soyez présents aussi. Ciao.
Au revoir.